Et salut à tous, chers auditeurs de rock, c'était Trivium avec Fist of Fire, leur nouveau single extrait de leur album qui sortira le 1er octobre, il me semble. On est parti pour une heure de Happy Hour en plein après-midi. Et je vais recevoir aujourd'hui Philippe de Wellcomix, et c'est également le bassiste de Magma, si vous le saviez pas. Donc voilà, c'est parti, on commence par Tribulation, Hour of the Wolf, c'est parti.
We'll be right back.
Ça vient de sortir, c'est le nouveau single de Blind Channel, le groupe qui a représenté la Finlande à l'Eurovision il y a quelques mois. Et ils sont de retour avec Balboa qui envoie vraiment du pâté, qui est chez Century Media. Et ils viennent aussi d'annoncer une tournée avec Eskimo Callboy et One Morning Left. Et ils passeront à la Boule Noire en janvier. Donc moi franchement je vais essayer d'y être, parce que la Boule Noire c'est toujours un kiff. Et Eskimo Callboy, voilà, je les ai jamais vus. Blind Channel non plus, One Morning Left non plus. Ça va être plein de belles découvertes en live. Et tout de suite, je vous propose d'écouter quelque chose qui est aussi très très frais, mais très très long. Du coup, on se retrouve juste après. Mais on va s'écouter The Alien de Dream Theater. C'est parti. We'll be right back. voilà, c'était le tout nouveau Dream Theater The Alien, extrait de leur nouvel album qui sortira du coup bientôt. J'ai pas la date en tête. J'ai pas la date en tête, mais ça sort bientôt, voilà. On va s'écouter tout de suite encore deux petits morceaux avant de lancer l'interview de Wellcomix. On va du coup commencer par un petit Rise Against. On va s'écouter Nowhere Generation. C'est parti. We are the Nowhere Generation. We are the kids that no one wants. We are a credible threat to the rules you set across to be alarmed. We are not the names that we've been given. We speak a language you don't know. We are the Nowhere Generation. The Nowhere Generation. Oh. Et c'était Inevitable Collapse de Welcome X. Et on va pouvoir lancer l'interview de Philippe, le bassiste de Welcome X. Et aussi bassiste de Magma au passage. Donc on va surtout parler de Welcome X. Hein, enfin, on va même uniquement parler de Welcome X pendant cette interview. Et puis voilà, on peut y aller. Je vous lance ça.
Salut à tous, chers auditeurs de Rock. Je suis avec Philippe de Welcome X. Salut Philippe, comment ça va ?
Bonjour à tous, ça va bien, vous aussi j'espère.
Très bien. Votre nouvel album, du coup, volume 2, est sorti il y a quelques jours. Qu'est-ce que tu penses un peu des retours qu'il y a eu depuis sur l'album ?
Bah, pour le moment, c'est vraiment gratifiant parce qu'on a eu que de très bons retours, y compris une belle chronique dans Rancard qui vient de sortir. Là, donc ouais, bah, ça fait chaud au cœur. Vu la sincérité, l'énergie qu'on met là-dedans, c'est vrai que c'est vraiment plaisant d'avoir un retour comme ça.
Je vais me joindre à leur retour positif parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'album. J'ai senti du Face No More, du Tool, du Pantera, même Alice in Chains, même sur un morceau. C'est un sacré mélange. Comment est-ce que le groupe s'est formé et comment est-ce que vous avez allié toutes ces influences ?
Bah en fait, on a formé, à la base, on a commencé à travailler avec Sam, le chanteur, sur des compos que je lui proposais. Donc, on avait la volonté déjà depuis très longtemps de travailler ensemble pour faire ce genre de choses. Et on s'y est mis en 2018, en fait. Il y a eu un moment donné, cette année-là, où on s'est retrouvés tous les deux avec des disponibilités assez conséquentes qui nous ont permis de nous mettre au travail. Et donc, moi, j'ai composé pas mal de choses. Je faisais ça sous forme de maquette. Et puis ensuite, on posait les parties de voix dessus. Ça s'est fait assez rapidement, en fait. C'était très, très fluide de travailler avec lui. Quand on a eu un répertoire suffisamment important, bah là on a décidé de monter un groupe pour jouer ça. Donc moi j'avais cette idée-là de toute façon d'une formation avec une basse, une batterie, un chant et deux guitares. Voilà. Okay. Un peu comme ACDC, voilà. Je trouve que c'est une formule très efficace qui permet de faire beaucoup, beaucoup de choses. Et après au niveau des différentes influences, bah ça c'est vraiment pas... C'était pas voulu, c'était pas conscient. Je pense que c'est un peu le prisme de toutes les choses qu'on a écouté, qu'on a aimé, et ça ressort forcément d'une manière ou d'une autre dans la musique qu'on compose, qui n'est ni plus ni moins que la musique qu'on a envie d'entendre en fait. Donc c'est un petit peu aussi un mélange de toutes les choses qui ont pu nous traverser et nous toucher, nous émouvoir.
Ouais. Ça donne un mélange du coup ultra varié, mais en même temps c'est ultra cohérent en termes de son. J'ai accroché du début à la fin. Comment vous gardez cette cohérence ? Qu'est-ce qui définit votre son en fait ?
Bah, le son est cohérent parce qu'il est joué vraiment par un groupe qui reste identique d'un morceau à l'autre. Hein, c'est-à-dire on a les mêmes sons de guitare, les mêmes sons de basse pour tout l'album. Il n'y a, a pas eu de production précise pour chaque morceau. C'est-à-dire qu'en fait, on a enregistré d'une façon un petit peu ancienne. C'est-à-dire on s'est installé tous dans la même pièce, à savoir les deux guitares, la basse et la batterie. Donc la batterie et tous les amplis dans la même pièce. Et on a enregistré tous ensemble.
Ouais.
Donc avec le jouage du groupe ensemble, on n'a pas fait les prises les uns après les autres avec un clic, comme on aurait pu faire sur une prod un peu plus longue, quoi.
Ouais.
Mais moi je préférais qu'on enregistre tous ensemble, et en fait on a passé d'abord à peu près 2 jours à faire un son, à faire le retour casque et tout ça, et le son qu'on avait après on l'a utilisé pour tous les morceaux, c'est-à-dire on n'a pas changé de réglage d'un morceau à l'autre.
D'accord.
Donc ça fait que bien que les morceaux soient différents, c'est des écritures différentes. Il y a quand même une cohérence au niveau de l'écriture parce que ça vient de la même période, des mêmes personnes. Mais après, au niveau du son, là, il n'y a eu aucun trafic d'un morceau à l'autre. C'est vraiment,
c'est vraiment du live,
une photo de ce qu'on a fait pendant cette semaine-là. Quoi.
Ok, ouais. Ouais. C'est impressionnant de savoir que c'est enregistré en live parce qu'il y a des trucs vachement complexes quand même.
On avait bien répété.
Ouais.
Et puis moi, je pense qu'on garde une musique beaucoup plus vivante quand on joue tous ensemble. Quoi. Parce que retrouver la même chose en faisant des prises séparées, c'est quand même moins facile. Hein. Alors après, bon, il y a plein de petites imperfections qui viennent du fait qu'on joue tous ensemble, mais je préfère garder ces petits trucs un petit peu aléatoires et puis avoir par contre une ambiance générale qui soit énergique et vivante. Voilà. Okay. C'est pas une musique aseptisée qu'on fait, quoi.
C'est plutôt brut de décoffrage, mais quand même, ouais. Du coup, volume 2, il sort très peu de temps quand même, relativement après le premier.
Oui.
Le premier est sorti juste avant du coup que ça parte vraiment.
Ouais.
Du coup, comment est-ce que vous l'avez fait, ce deuxième album? Comment est-ce que c'est fait le timing de cet enregistrement?
Il était déjà quasiment prêt. Quand on a enregistré le premier, on avait déjà quasiment toute la matière pour le second. Mm-hmm. Parce qu'on avait monté un répertoire pour la scène. Ouais. Donc la majeure partie des morceaux du deuxième album existait déjà quand on a sorti le premier. Certains n'étaient pas tout à fait finalisés, mais bon, ils en étaient pas loin. Et donc on était déjà presque prêt à enregistrer la suite. Et on l'a appelé volume 2 d'ailleurs, pour qu'il ne soit pas dissocié du premier, c'est vraiment une suite immédiate, quoi. C'est... Parce que ça a été composé dans la foulée, hein, grosso modo, 2018-2019, c'est on a écrit tout ça. Et il n'y a pas eu de coupure, il n'y a pas eu de rupture entre les deux. Donc, ouais, moi je pense qu'il y a une filiation vraiment immédiate, quoi.
Ouais, carrément.
Alors après, pour enregistrer, ben, on s'est débrouillé comme on a pu. Quand on est resté isolé tout le temps, on a profité de la petite fenêtre pendant l'été où on avait le droit de bouger.
Ouais.
Là, on a pu prendre une semaine pour enregistrer ça. Et puis après, on a mixé ça ben, entre deux périodes de confinement, comme on a pu pendant l'automne dernier. Et voilà, ça finit par aboutir.
Ouais. On va parler un petit peu des chansons. Bah, j'ai pas mal de chansons préférées, ce qui est plutôt bon signe, parce que j'en ai vraiment beaucoup, que j'ai adoré. Notamment Everlasting Light Part 2, qui m'a rappelé un peu Opeth dans l'idée. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce morceau?
Ouais, c'est le côté rock-prog un peu qui fait ça, et puis des riffs assez lourds, assez longs comme ça. Alors, Everlasting Light, c'est la partie centrale de l'album. En fait, c'est une espèce de suite instrumentale, qui maintenant s'appelle Everlasting Light Prélude, Scent of Sakura, qui aura pu s'appeler Everlasting Light tout court, et ensuite la fin qui s'appelle Everlasting Light Part 2. Donc tout ça, en fait, c'est une pièce instrumentale au début que j'avais écrit, et je voyais pas ça comme une chanson comme les autres morceaux. C'est-à-dire que tous les autres morceaux, je les ai composés en me disant il va y avoir une voix dessus.
D'accord.
Donc je laissais volontairement suffisamment de place, qu'il y ait de l'espace pour que Sam puisse poser des mélodies, poser des voix, enfin qu'il y ait cette expression qui soit prévue, quoi. Alors que pour celui-là, j'ai pas procédé du tout de la même manière, j'ai fait un morceau qui était vraiment conçu comme un truc instrumental, avec des mélodies instrumentales, des contre-chants, etc. Et par contre, sur la partie du milieu, il y avait de grosses respirations entre les différents thèmes, la musique était conçue comme ça, quoi. Et moi, j'avais envie d'entendre une voix parler sur ces moments-là. J'avais envie d'une expression, mais qui soit parlée, qui soit pas forcément chantée comme sur les autres morceaux.
D'accord.
Il n'y avait pas non plus ce côté vraiment rock rentre dedans, c'était un truc un peu plus onirique, donc voilà, ça s'y prêtait bien. Et j'en ai parlé à Sam, et il était emballé par cette idée-là, donc on a organisé ça comme ça, il y a quelques phrases par moment qui apparaissent. Après, pour la teneur du morceau, c'est le seul morceau pour lequel je me suis permis de donner quelques indications à Sam pour les paroles.
D'accord.
Parce que j'avais déjà une idée, une espèce d'inspiration au niveau du contexte qu'on pouvait avoir envie de qui pouvait être évoqué. Et chose que j'ai pas fait du tout pour les autres titres. Pour les autres titres, même si j'avais des idées, même des idées très vagues, hein, genre ouais, une ambiance aérienne, un truc plutôt lourd,
romantique,
je sais pas quoi, enfin, bref, je lui disais rien du tout, de façon à ce qu'il soit pas influencé par mon ressenti, et qu'il soit complètement libre d'entendre ce qu'il veut comme il veut, y compris au niveau des paroles. Alors que pour celui-là, je me suis permis de lui dire un petit peu ce que je voyais. Et pour moi, ce morceau-là, il représentait cette espèce de fracture entre la vie qu'on mène et celle qu'on a envie de mener dans notre monde humain, là, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vit dans des villes hyper construites, hyper sophistiquées, avec des technologies incroyables, ce qui n'empêche pas la misère, d'ailleurs. Hein.
Bref.
Une partie de la population vit dans un espèce de monde complètement fabriqué comme ça, qui est irréel en fin de compte.
Ouais.
Alors que tout le monde aspire, et ça on s'en est bien rendu compte pendant les confinements, là tout le monde aspire à se retrouver dans la nature en fin de compte. Et on est rarement plus heureux que quand on est en contact direct et serein avec la nature, qu'on arrête de penser à quoi que ce soit, et qu'on savoure juste un paysage de montagne, avec un ciel dégagé, un air pur et une sensation de temps qui s'arrête comme un instant infini, quoi. Et voilà, j'avais cette idée là que je mettais en relation avec un voyage que j'avais fait au Japon, où j'ai eu la chance d'aller, et là où on voit vraiment ces villes qui sont démesurées, qui sont faites de métal, de verre et de béton, avec des écrans partout, enfin qui sont vraiment d'une sophistication extrême, et à côté de ça la nature japonaise qui est restée vraiment presque immaculée, très riche, avec des forêts luxuriantes, des montagnes magnifiques. Et c'est ces choses-là, finalement, qui te rendent vraiment heureux, je pense.
Ouais, c'est vrai.
Donc,
que...
c'était un petit peu l'idée de, bah, de parler de cette fracture dans laquelle on vit. Et le poème qu'il a écrit, c'est ce qu'il évoque là. C'est un peu un retour de l'homme, justement, à la nature, qui est représenté aussi par le graphisme qu'a fait Paul. Mm-hmm. Il a fait un dessin là où il représente justement les villes de chaque côté, là, qui sont assez grises.
Ouais.
Et puis cette nature qui reste au centre, dans laquelle l'homme finit par mourir, par retourner, quoi. Mm-hmm. Avec le mont Fuji derrière qui est inébranlable. Et,
ouais, justement, ouais,
et c'est l'éternel qui donne cette sensation d'éternité. Mm-hmm. Quoi.
C'est vraiment, ouais, le pays qui symbolise le mieux cette fracture entre les deux, le Japon,
ouais,
je pense.
Donc voilà, donc je m'étais permis de lui suggérer toutes ces choses-là qui ont abouti au texte qu'il a écrit.
Ok, ouais. Il y en a un autre que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Bullseye, avec justement, ouais, on parlait de la variété des sons dans l'album, et là c'est vraiment une qui envoie du pâté, ça m'a fait penser à Avatar notamment, un peu dans l'idée. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce morceau aussi?
Ouais, alors pour moi ça c'est un morceau groovy, tu vois. Là j'étais parti sur un riff que... En fait, tout était parti du riff du premier couplet, là, en fait. J'avais joué ce riff, là, une fois, et j'étais super excité à jouer ce truc-là. Du coup, je le tournais dans tous les sens, j'ai essayé de trouver d'autres combines, des arpèges par-dessus, une suite, etc. Et tout le morceau est parti de ça, en fait, c'était vraiment la source. Et c'était un truc vraiment, au début, groovy, quoi, tu vois, un peu à la Red Hot, si on veut. Je pensais un peu au Red Hot Chili Peppers, ce genre de choses.
Ouais, carrément.
Ce genre de groupe des années 90, à Rage aussi. Et voilà, c'est un morceau qui s'est fait assez spontanément, en fait.
Ok. Il y a un autre morceau, justement, on parlait d'Everlasting Light, la trilogie. Il y a un autre morceau qui est un véritable pilier dans l'album, c'est Ombromanie. C'est le morceau techniquement le plus long.
Oui.
Est-ce que tu peux me parler de son concept, un peu de quoi ça parle?
Alors, Ombromanie, alors au niveau des paroles, ça me pourrait en parler beaucoup mieux que moi. Je ne vais pas trop lancer sur ce terrain-là parce que j'ai peut-être des bêtises. Mais c'est un morceau qui parle des illusions au niveau des paroles. C'est-à-dire, quelle est la relation entre ce qu'on voit et ce qu'on croit voir. La réalité de ce qu'on voit et la réalité de ce qu'on croit que ça puisse être. Donc cette histoire de jeu d'ombre, Ombromanie, en fait, c'est les ombres chinoises.
Ouais.
Donc on peut faire croire des choses juste par des manipulations, finalement, et on accorde une réalité à une vision qui, en réalité, n'est pas du tout, pas du tout celle-là. Donc voilà, il faut se méfier de ses propres illusions. Et aussi des choses qu'on projette. C'est-à-dire, on veut voir quelque chose, donc on va finir par aller le voir, même si ça n'existe pas.
Voilà. D'accord.
Donc, c'est un petit peu les thèmes qu'il aborde. Après, au niveau de la musique, moi, c'était un morceau pour moi vraiment. En fait, si, je vais un petit peu parler aussi, je vais une petite aparté. Il est construit en trois parties de l'album. Tu vois, dans le livret, il y a trois illustrations.
Ouais.
Ça correspond en fait aux trois volets d'album. J'avais regroupé les morceaux comme ça parce que je trouvais que ça fonctionnait très bien, aussi bien au niveau de la vision générale du truc que quand on l'écoute. Les deux premiers morceaux, Tilacine Blues et Bullseye, c'est des morceaux qui ont une écriture un petit peu similaire, c'est-à-dire ils sont construits de la même manière. Donc, il y a une intro qui prend bien son temps, ensuite on arrive sur le premier couplet, ça démarre tranquillement, le refrain qui bustonne un peu plus, on revient sur le couplet, et puis après le deuxième refrain qui va être développé de façon beaucoup plus intense, qui va amener à une suite, une espèce de pont, et qui va progressivement revenir sur la partie de l'intro. Donc ça fait une boucle en fait, c'est comme un voyage aller-retour, et on revient au point de départ. Ces deux morceaux-là sont faits sur le même schéma.
D'accord.
Ils sont comparables au niveau de la durée. Et puis au niveau d'énergie aussi, je trouve que c'est une énergie un peu comparable. C'est des riffs quand même assez pêchus, ça fait bouger la tête. Voilà.
Carrément.
Après ce premier volet, donc il y a toute la partie centrale avec Everlasting Light qui est en trois parties, là, en fin de compte. Et ça, pour moi, c'était une respiration, justement, après les deux gros pavés. Tu vois, j'aime bien ça sur scène aussi, c'est-à-dire commencer par des choses assez pêchues. Et puis après, quand on a déjà pris un peu plein la gueule, une petite respiration, ça permet, tu vois, de calmer le rythme cardiaque, calmer un petit peu le jeu avant de repartir encore plus loin, si on peut, quoi. Donc c'est un peu le sens de la partie centrale, Everlasting Light, qui commence très tranquillement. En fait, c'est un long crescendo, Everlasting Light. Mm-hmm. Ça commence vraiment avec trois fois rien, des petites harmoniques de basse dans une reverb, un truc très très dépouillé, presque du silence. Et puis petit à petit, ça va s'animer, il y a la partie du milieu... qui est assez mélodique mais qui reste quand même assez calme, et puis ensuite après le solo de guitare, là par contre c'est très très lourd, c'est des riffs très strong joués vraiment là c'est joué sur les guitares, là c'est cogné très très fort, hein,
pour d'accord, ouais.
Comme ça, c'est pas de la rigolade là.
Ok.
Et ensuite, donc ça c'est un truc qui se tient en lui-même, je pense. Mm-hmm. Et après cette partie-là, on passe vraiment à la troisième volet, qui est complètement différent, enfin qui est dans la continuité, mais qui pour moi est une musique plus immédiate, plus simple peut-être, qui est moins arrangée, qui est moins sophistiquée, c'est plus des riffs de guitare avec des unissons, c'est jouer sur les timbres, on étouffe les notes, on les lâche, mm-hmm. voilà. Mais au niveau de l'écriture, c'est un petit peu plus basique, quoi.
D'accord.
Et ça se rapproche plus de ce que j'aimais quand j'étais adolescent, c'est-à-dire ACDC, Black Sabbath, voilà, des musiques vraiment instinctives, immédiates, qui me procuraient vraiment une joie énorme, quoi.
Ouais.
Donc j'ai voulu un peu aller dans cette direction-là. Enfin, c'est pas que j'ai voulu, mais je me suis aperçu que j'allais dans cette direction-là, parce que au départ, je savais pas quoi.
Okay.
Et Ombromanie, oui, c'est un morceau qui est fait, lui aussi, en trois parties. C'est une espèce de trilogie. Il y a vraiment, c'est comme s'il y avait trois chansons, en fait, qui s'enchaînent, avec une espèce d'articulation qui permettent de passer l'une à l'autre, mais avec une grosse cohérence au niveau du son, du tempo, de l'énergie. Et juste une respiration avant la troisième partie, où là on reconstruit un truc à partir d'une basse batterie très très dépouillée, les guitares reviennent peu à peu, et puis ça finit, c'est quand même très très épais, quoi.
Ouais.
Voilà.
Ok.
Bah justement, là tu me parlais de tes influences, il y a Inevitable Collapse, dont on a parlé un peu avant l'interview. Le single qui me rappelle justement, c'est lui qui me rappelle Alice in Chains avec les unissons, les côtés un peu à la Dirt, là.
Bah Sam et moi, en fait, on a été beaucoup touchés par les groupes des années 90, quoi. Mmh. Tous ces groupes qui sont apparus, la Grunge, les groupes de Los Angeles de l'époque, là aussi, là, vraiment des choses super. Mmh. Et c'est vrai que ça nous a nourris, et je pense que ça doit ressortir d'une certaine manière dans la musique qu'on a envie de faire, quoi.
Ouais.
Et du coup, qu'est-ce que ce sera la suite pour Welcome X? Est-ce que vous allez du coup réussir à partir en tournée? Je crois que vous avez fait une date vendredi.
On avait deux dates la semaine dernière. Donc, ouais. C'est des dates en fait qui étaient prévues déjà depuis longtemps, qui ont été repoussées pour les raisons qu'on connaît. Après, pour le moment, il n'y a rien de concret encore d'organisé, mais j'espère que ça va bouger un peu. Et puis, surtout que les choses vont reprendre, parce que là, ça reste encore un peu flou. Hein.
Ouais.
Il y a beaucoup de petites structures qui sont en difficulté, des petits festivals, on ne sait pas si ça va continuer. Enfin, pour les gros trucs, je ne me fais pas trop de billes,
oui.
Mais toutes les petites choses un peu indépendantes, un peu alternatives avec lesquelles j'avais l'habitude de travailler, là, c'est un peu plus inquiétant.
Bon, d'ailleurs, ouais, le Triton, c'est une salle de spectacle.
Du coup, elle était du coup jusque-là, ouais. Mais c'est compliqué pour eux aussi. Hein,
bah ouais.
Parce qu'il y a des jauges réduites, etc.
Ouais, je me demandais si ça allait pour eux parce que.
Jusque-là, ça va.
Ok, bon, tant mieux. Et du coup, à la fin de cette interview, quelle chanson de l'album correspond le plus à ton état d'esprit après cette interview?
Ah, c'est très difficile, ça. Parce que du coup, c'est le détriment des autres.
C'est pas ta chanson préférée, c'est vraiment ton humeur du moment, quoi.
Ouais. Peut-être Bullseye, à cette heure-là, avec la fatigue et un peu d'adrénaline. Peut-être Bullseye.
Ok. Merci beaucoup pour cette interview, Philippe.
Merci à vous.
Est-ce que tu as quelques mots pour les gens qui découvrent Welcome X en ce moment ou vos fans qui nous écoutent?
J'ai simplement envie de leur dire d'écouter ça sans aucun a priori. Welcome X, ça signifie bienvenue à l'inconnu. Parce qu'en fait, on découvre la musique qu'on fait en la faisant. A priori, on ne sait pas ce qui va ressortir de ça quand on s'y met. Mm-hmm. Et donc, c'est une découverte pour nous aussi. On l'a fait vraiment avec la plus grande sincérité, avec tout le cœur qu'on a pu y mettre, donc en espérant que les gens seront touchés et partageront ces émotions avec nous.
J'en doute pas, moi. Et où est-ce qu'on peut se procurer l'album pour nos auditeurs?
Alors, je pense qu'il est en vente dans tous les magasins, dans le circuit de distribution normal.
Ok. Hein,
parce que il doit être aussi sur Deezer, Spotify, enfin sur beaucoup de choses, quoi. Voilà, ça doit pas être trop difficile à trouver, je pense. Ou sinon directement sur le site du label. Le Triton, on va pouvoir le commander aussi.
Ok, super. Bon, merci beaucoup et puis à bientôt.
Merci à vous.
Et voilà, c'était notre interview. Herminie était présente. C'était notre interview de Philippe de Welcome X. Et encore merci beaucoup à Replica Promotion pour cette super interview et pour le super CD, voilà, au passage. C'est un album excellent. Je vous conseille vraiment d'aller l'acheter parce que c'est un des meilleurs albums qui soit sorti de la scène française cette année, je pense. Et on va d'ailleurs continuer à découvrir un peu cet album, je vais vous présenter Bullseye, qui est du coup le titre qui correspondait à son humeur à la fin de l'interview. Et c'est aussi une de mes préférées de l'album, donc voilà, c'est parti, Bullseye. On se retrouve un petit peu plus tard pour terminer l'émission. We'll be right back.
typical of your innocent hate. Blood we drank, flesh we ate. Love to the pain, nothing but fate.
Et c'était Slaughter to Prevail avec Baba Yaga. Et en théorie, je vais vous faire la diffusion de l'interview qu'on a fait avec le guitariste de Slaughter to Prevail cette semaine. Ça va être énorme. Et d'ailleurs, leur album est énorme. Je vous conseille franchement d'aller l'acheter parce que voilà, c'est un des meilleurs trucs de deathcore qui soit sorti ces derniers temps. Et il est déjà temps de terminer cette émission. Je remercie encore une fois Replica Promotion et Welcomix pour cette super interview. Et on va se retrouver, je pense, tout à l'heure pour une deuxième émission de la journée. Et voilà, c'est toujours un kiff de présenter ces émissions. Donc à tout de suite. Enfin, à tout de suite. À tout à l'heure. Et puis on se quitte sur un petit Carcass pour aussi vous teaser une autre interview qui va sortir bientôt, enfin dans un petit mois. Et voilà, car j'ai eu le batteur de Carcass en interview pendant une bonne demi-heure. Donc tenez-vous prêts, ça arrive très bientôt. Et on s'écoute tout de suite Kelly's Meat Emporium de Carcass, extrait de leur nouvel album Torn Arteries qui sort le mois prochain.
Policy is prepared.